Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Kimia est une jeune femme née à Téhéran et exilée à Paris depuis 10 ans. On la découvre dans une salle d'attente d'un hôpital parisien. Là, elle trompe son ennui en laissant remonter ses souvenirs de son pays d'origine, de son histoire mouvementée, de sa famille et de ses amis. Désorientale est le premier roman de Negar Djavadi, publié chez Lana Levy, collection Piccolo. Il vient de recevoir aux États-Unis une 20e distinction, le prix Albertine. Vous pourrez retrouver cet entretien avec Negar Djavadi sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Negar Djavadi.
Bonjour Éric Bataillon.
Cinéaste de formation, vous êtes désormais scénariste. Désorientale, publié chez Lana Levy, est votre premier roman et il a déjà reçu de nombreux prix depuis sa sortie. Le 20e est américain, le prix Albertine, qui couronne, je crois, un premier roman étranger traduit en anglais, c'est cela ?
Un roman français, tout simplement, traduit en anglais dans l'année du prix.
Alors Negar Djavadi, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre Désorientale ?
Ce qui m'a poussé à écrire cette histoire, c'est beaucoup de choses. C'est déjà parce que à chaque fois que j'ai parlé de cette période-là de ma vie, de mon enfance, etc., quand j'ai passé le concours de l'école de cinéma de Bruxelles, par exemple, on me disait « mais pourquoi t'écris pas cette histoire ?» ou « un jour, il va falloir que tu parles de cette histoire ». Donc c'était resté dans un coin de ma tête comme quoi il fallait un jour que je raconte cette histoire. Mais cette histoire, c'était quoi ? C'était plutôt l'histoire de la Révolution et pas cette histoire de l'Iran au XXe siècle que j'ai essayé d'écrire dans Désorientale. Mais en réfléchissant sur la Révolution, plus je réfléchissais, plus je remontais en arrière. Parce que plus je me disais quelles étaient les causes de cette révolution, comment ça s'est passé, etc. Et plus je déroulais ça, et plus je remontais loin.
Qu'y a-t-il de commun entre votre héroïne, Kimia, et vous ?
Pas justement cette révolution et le point commun. Parce qu'on cherche pas mal de points communs entre Kimia et moi, puisque c'est un jeu, c'est une narratrice. Mais le vrai point commun, c'est cette révolution, et c'est là où ça se déroule, c'est-à-dire cet appartement où ça se déroule, et la manière dont ça se déroule. Mon père était opposant politique, ma mère aussi. Il y a beaucoup de semblables entre mes parents et leur combat, et les parents de Kimia, mais en même temps, il y a beaucoup de différences aussi, de même dans la fratrie. Moi, j'ai pas de sœur, par exemple. En revanche, ce qui se passe là, dans cette maison, et la manière dont ça se passe, les arrestations, la SAVAK, la police secrète du chat, la bombe, même, à la maison, tout ça, je l'ai vécu.
Mais est-ce que ce livre est une autobiographie ou quelque chose qui s'en approche ?
Non, c'est pas une autobiographie dans le sens où il y a énormément de choses dans ce livre qui sont pas de moi, ou même ce qui arrive à Kimia pendant la Révolution, il y a des épisodes que j'ai pas vécu. Je dirais plutôt que c'est une sorte de broderie autour d'une biographie. Donc voilà, moi, comme vous l'avez dit, je suis scénariste et pas ingénieur du son ou DJ comme elle, donc c'est pas vraiment mon histoire.
Alors, le récit ressemble à une succession de bouts d'histoire, parfois historiques, des anecdotes qui sont non chronologiques. Est-ce que c'est un livre sur la mémoire ?
C'est totalement un livre sur la mémoire, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un peu éclaté. C'est des pièces de puzzle qui s'emboîtent.
Vous dites de la broderie ?
Absolument. Il fallait coudre, il fallait tisser toutes ces histoires ensemble, ne pas perdre le lecteur au milieu des histoires ou dans le passé historique de l'Iran. En effet, c'est sur la mémoire parce que j'aurais pu l'écrire de façon linéaire, mais ça rendait pas vraiment cette manière qu'on a de se souvenir. Et comme moi, je ne vais pas en Iran et tout ce que j'ai, c'est mes souvenirs. Donc, je me suis dit, je ne peux pas l'écrire de façon linéaire puisque c'est pas comme ça que je me souviens de l'Iran. Quand je pense à mon enfance à l'Iran, c'est toujours plein d'histoires qui arrivent, soit en même temps, soit je pense à une histoire, il y a une autre qui arrive, je pense à quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc voilà, ce livre ressemble un peu à ça.
Alors on fait connaissance avec votre héroïne Kimia dans la salle d'attente d'un hôpital parisien. Elle est en quête d'une insémination ou d'une FIV peut-être ?
Non, c'est une insémination.
C'est une insémination. Or la première histoire racontée est celle, dans le livre, est celle d'une ancêtre morte en couche à 15-16 ans environ, après avoir été forcée, sinon violée, par le maître du harem. Est-ce que l'événement contemporain est la conséquence de cet événement ancien ?
Il y a un lien assez fort que j'ai découvert en écrivant, que je m'étais absolument pas dit « je vais écrire ça et je vais l'écrire de cette manière-là ». C'est en écrivant, en remontant aux origines de Kimia, où je me suis dit « tiens, il y a quelque chose qui se raconte à travers l'accouchement et la maternité sur la femme iranienne au fur et à mesure de ce XXe siècle, qui était quand même extrêmement dramatique en Iran, parce qu'il n'y a pas eu qu'une révolution, il y a eu des révolutions, des coups d'État, etc. Et en fait, cet accouchement de cette femme qui est totalement anonyme, dont on ne sait même pas un prénom, et qui meurt en donnant naissance aux jumelles, comme ça, dans un coin, est à mettre en effet en relief, avec, enfin en correspondance avec ce qui va arriver à Kimia, mais aussi à sa grand-mère qui, elle, va accoucher de ses fils chez elle, tranquillement. Au moins, on la connaît, elle a un prénom. Après, la mère de Kimia qui va accoucher à l'hôpital, parce que entre-temps, l'Iran est devenu plus moderne, le pétrole, on a vendu le pétrole, il y a eu pas mal d'argent rentré, etc. Donc, il y a ce lien entre les femmes à travers la maternité et l'accouchement tout le long du livre.
Justement, la maternité, c'est très, très présent dans votre livre, notamment les filles de Sarah. Sarah ne cesse de leur demander, mais pourquoi vous ne faites pas d'enfants? C'est très important, cette maternité. Qu'a-t-elle à voir avec la condition féminine?
C'est la condition, j'allais dire, sine qua non de la femme en Iran. C'est être mère. Voilà, donc on ne lui pose même pas la question. Et les fêtes ont fait des filles pour qu'elles deviennent mères. Et elles-mêmes grandissent avec cette culture de devenir mère. Voilà, si on ne devient pas mère, il y a toujours quelque chose de suspicion dans une famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? On n'ose pas poser des questions, etc. Donc il y a tout un jeu autour de ça. Mais Sarah a cette modernité qui fait qu'elle ne parle pas de mariage. Pour elle, ce qui est important, c'est d'être mère. Elle n'est pas dans cette pensée un peu conservatrice qui dit épouse un homme et puis devient mère. Non, pour elle, c'est la maternité qui est importante. Et finalement, Kimia hérite de ce bout-là, de la pensée de sa mère, parce qu'elle hérite beaucoup de son père. Mais de ça, elle devient mère à son tour.
Être mère, mais être mère seulement ou être mère et aussi autre chose?
En Iran, il y avait énormément de femmes qui travaillaient. Mais la question ne s'opposait pas de absolument faire des études, travailler, en tout cas pas dans mes souvenirs d'enfance à moi. Je pense qu'aujourd'hui, les filles sont beaucoup plus dans cette tendance de faire des études et travailler, etc., que à l'époque. Moi, j'avais plein de tantes ou des gens autour de moi, des femmes qui ne travaillaient pas, qui étaient épouses, qui étaient mères, mais qui ne travaillaient pas.
Alors, plus que la mémoire ou la condition féminine, est-ce que ce livre est un roman sur l'identité?
Écoutez, oui, c'est vrai que ça brasse énormément des questions d'identité, que ça soit une identité sexuelle, que ça soit une identité culturelle, que ça soit la nationalité même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être iranien ou français? Qu'est-ce que ça veut dire d'être oriental ou ne pas être oriental? Donc, ça brasse énormément ces questions, même si pour moi, c'était pas ma priorité d'écrire sur l'identité, parce que ce n'est pas une interrogation qui me poursuit au quotidien. Donc, du coup, je me les pose pas en ces termes. Moi, j'ai souvent l'impression, en fait, qu'on est ce qu'on est que dans le regard des autres. Peut-être que ça vient de mes études de cinéma ou de mon métier de scénariste, mais quand je parlais aux acteurs, ils me disaient souvent, c'est très dur d'être seul sur scène, parce que c'est l'autre qui vous fait roi, ou c'est l'autre qui vous fait reine. Voilà. Donc, moi, j'ai aussi un peu l'impression que c'est l'autre qui vous fait étranger, ou qui vous fait homosexuel, ou qui vous fait... Donc, c'est plus là-dedans que je m'interroge que dans l'identité en tant que telle.
Alors, il y a un personnage dans votre roman qui se fiche pas mal, finalement, du regard des autres, c'est Darius.
Oui, c'est vrai. Il se fiche pas mal du regard des autres parce qu'il est très sûr de ce qu'il est. Il est très sûr de son histoire, de son passé, de sa famille, de ses origines, de ses parents, de son rang. Parce qu'il est d'une famille bourgeoise. Dès le départ, dès sa naissance, il a été considéré comme un, je vais mettre plein de guillemets, comme un seigneur. Donc il est très sûr de tout ça. Et il est très sûr de ce qu'il a appris à travers les livres, parce que c'est un grand lecteur et c'est un grand penseur, de vouloir renverser tout ça. Il ne s'embarrasse pas des autres. Non.
Darius, journaliste opposant.
Journaliste opposant politique. Et il écrit une lettre au Shah en 1976 où il dénonce la tyrannie de ce régime.
اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده ی دریا میشم.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de la romancière Negar Djavadi pour son livre Désoriental chez Lana Levy, qui vient de recevoir le prix Albertine aux États-Unis. Désoriental, ce mot sonne à double sens. On entend s'occidentaliser, mais aussi être désorienté. Quelle est la bonne lecture ?
Les deux. S'occidentaliser, pas vraiment s'occidentaliser, se désorientaliser, j'allais dire, se s'éloigner, prendre de la distance avec l'Orient, et puis peut-être aussi un troisième sens, qui serait l'Orient, le soleil, c'est-à-dire de s'éloigner un peu de ce soleil d'Orient qui habite notre mémoire, à tous les gens qui sont nés là-bas ou qui ont grandi là-bas. Je pense à des phrases d'Albert Camus, pense à ce soleil. Voilà, donc c'est perdre ce soleil-là aussi.
Votre héroïne écrit, ou vous écrivez, « Il n'est pas surprenant que nous ayons désappris ce que nous étions pour faire de la place à ce que nous sommes devenus. » C'est cela ?
Oui, c'est cela, absolument. Parce que de toute façon, quel que soit l'âge où on part de chez soi, on est, j'allais dire, on est plein et entier. Voilà, on a des souvenirs, on sait des choses, on a des amis, on a une vie, on va à l'école, ce qui était mon cas. Ou alors on a des enfants, ce qui était le cas de mes parents, voilà. Donc, plein de tout ça, on arrive dans un autre pays. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de place pour prendre de cet autre pays, de sa culture, de sa langue, de toutes ses richesses. Et il faut un peu faire de la place, il faut un peu se vider pour se remplir d'autres choses.
C'est ce que vous avez fait ?
Oui, indéniablement, oui, totalement.
Alors, vous donnez dans ce livre, par petites touches, des éléments vus de l'intérieur sur la révolution de 1979 en Iran. Est-ce pour rétablir une certaine vérité ?
Oui, dans le fond, oui, absolument. C'est pour rétablir une certaine vérité, sachant que je ne suis absolument pas historienne, que je n'ai pas fait d'études sur la révolution et que je ne parle que de ce que j'ai vu et de l'endroit où je l'ai vu, c'est-à-dire de l'appartement où j'ai grandi.
Et car vous-même, vous avez quitté l'Iran en 81, donc vous avez des souvenirs de cette révolution de 79.
Ah, totalement. J'ai non seulement des souvenirs, mais comme j'avais des parents opposants politiques, je grandissais dans cette ambiance révolutionnaire du matin au soir. Et en plus, à une époque, il y avait même plus, les écoles avaient fermé, donc du coup, on était là du matin au soir à la maison et on vivait tout ça en direct.
Et vous êtes monté sur le toit pour crier par exemple à l'Akbar ?
Oui, on montait tous les voisins montaient sur le toit. Oui, c'était vraiment un moment assez incroyable parce que les lumières s'éteignaient, la ville était endormie et tout le monde montait sur les toits. C'était une manière de s'opposer ou assez en cachette et assez efficace d'ailleurs puisque on pouvait pas nous tirer dessus. Ce fameux Allah Akbar, c'était pas du tout islamiste dans le sens. De toute façon, c'est une culture. Alors, il faut différencier cette culture de l'islam dans laquelle on grandit et l'islam politique qui est autre chose. Mais cette culture qui fait que on dit toujours Inch'Allah derrière un mot, voilà, donc où on dit Allah Akbar parce que on pense s'opposer de cette manière-là, ça fait partie de la culture aussi iranienne, mais qu'on partage avec plein de pays tout autour. Mais l'islam politique, c'est autre chose.
Alors, vous semblez accorder plus d'importance au coup d'État de 1953. Pourquoi ?
On parlait de la révolution de 79 parce que je pense que l'origine de cette révolution remonte à ce coup d'État.
Alors, rappelons que c'est le Premier ministre Mossadegh qui est renversé par les services secrets, on va dire ça rapidement, anglais,
Et américain,
la CIA, américain. Qui l'a d'ailleurs reconnu, avec des éléments islamistes.
Exactement, avec des éléments islamistes. C'est assez complexe à expliquer tout ça, mais le gros, c'est effectivement l'opération Ajax, c'est-à-dire la destitution du Premier ministre. On a envoyé le chat en dehors du pays, il est parti 3-4 jours à Rome, et puis Téhéran a été mis à feu et à sang. CIA et MI5 ont payé les voyous, les anciens tollards, ils ont mis le feu à Téhéran, et le gouvernement a été renversé. Donc, par exemple, l'origine de cette, j'allais dire haine, mais cette détestation des Iraniens envers les Américains vient de là. Après, bien des années après, l'ambassade a été envahie. Voilà. C'est pourquoi je dis l'origine de la révolution de 79 est quelque part dans ce coup d'État de 1953, parce qu'aussi Mossadegh, le Premier ministre, a été élu par l'Assemblée. Donc il a été élu, entre guillemets, démocratiquement. Donc il y avait quelque chose qui se passait. La nationalisation du pétrole. Donc tout ça a été stoppé net. Et quand le Shah est revenu, les lois ont été beaucoup plus sévères. Le Mossad a été appelé, la SAVAK a été créée, etc., etc., etc. Donc, à partir de là, l'Iran a changé de visage et est devenu l'Iran que j'ai connu dans les années 70.
Votre famille, à vous, était opposante au Shah, donc pour la révolution, mais était-elle laïque et non islamiste?
Je ne l'ai jamais pensé en termes d'islamiste. D'ailleurs, on ne pensait pas à l'époque, je ne pense pas du tout en termes d'islamiste. L'islam était la religion de ce pays et on grandissait, comme je vous l'ai dit, avec une culture comme ça, imprégnée d'islam. Mais ce mot islamiste n'était pas utilisé tous les jours. En plus, mes parents à moi étaient laïcs. Mon père était laïque, absolument, et très laïque. Donc oui, il était révolutionnaire, mais c'est pourquoi j'ai écrit ce livre aussi. Quand vous parliez de rétablir la vérité, c'était aussi pour dire que la révolution en Iran, ça a commencé bien avant 79, donc bien avant l'arrivée de Khomeini, et cette islamisation très forte du pays. Donc avant, il y avait énormément d'opposants politiques qui étaient laïcs, qui voulaient que le régime change, c'est-à-dire que le régime militaire qui était au pouvoir change aussi. Au départ, personne ne disait « il faut que le roi tombe ». Et tout ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et quand je dis « au départ », c'est dans les années 70, 72, 13, 14, 15. Donc tout ça était en gestation depuis très très tôt. Et en 79, l'Occident a vu que Khomeini et cette révolution-là, qui est devenue de fait révolution islamiste, et Khomeini l'a utilisé comme ça aussi, c'est le mot qu'il a employé. Mais pendant toutes ces années où lui n'était pas là, il était en exil en Irak et puis en France, c'était pas comme ça que la révolution a été conçue et pensée.
Comment voyez-vous la situation en Iran aujourd'hui? Que penser de cette jeunesse qui brave les interdits, notamment ces femmes qui enlèvent leur foulard en pleine rue et le brandissent sur un bâton?
Cette jeunesse dont vous parlez est née après la révolution. Il y a 70% des Iraniens, même plus, qui ont moins de 40 ans. Donc c'est un pays très très jeune. Et cette jeunesse a grandi, a vécu, est née avec ce régime. Donc eux, ils veulent la liberté, tout simplement. La liberté de vivre comme ils veulent, de mettre ou de ne pas mettre le voile, d'écouter de la musique ou de ne pas l'écouter. Et cette liberté fondamentale, déjà, pour commencer, qu'ils n'ont pas. Après, les autres questions viennent derrière ça. Donc pour l'instant, il faut la liberté et puis après on verra s'ils veulent de ce régime de l'islam ou pas.
Le voile que l'on voit de plus en plus porté d'ailleurs en France. Alors la France, justement, vous l'évoquez fréquemment dans votre livre « Des orientales », les idées de liberté, d'égalité, de laïcité, est-ce que ce sont juste des mots en France et la réalité étant pour vous plus décevante?
C'est pas des mots, c'est des idéaux. Donc c'est toujours difficile d'atteindre à 100% un idéal, de fait. Mais si on compare la France aux autres pays, dont à l'Iran, franchement, la liberté, l'égalité, la fraternité existent amplement. Surtout la liberté. Mais c'est toujours perfectible, effectivement. Donc dans ce sens-là, c'est pas décevant. C'est un pays avec ses habitants, avec ses combats, avec son conservatisme, avec ses partis politiques, voilà. Donc avec tout ça, il faut composer la liberté, la fraternité, l'égalité, et c'est pas toujours très évident.
Negar Javadi, prenez-vous l'escalator dans le métro?
Oui, je prends l'escalator. Oui, je l'ai toujours pris depuis le début. Donc, mais il y a des gens qui, depuis qu'ils ont lu Des Orientales, me disent qu'à chaque fois qu'ils prennent l'escalator, ils pensent à Darius.
Darius, dont vous parlez dans le prologue de ce livre.
Absolument, ça commence comme ça, ça commence par l'escalator que Darius Sadr, donc le père de l'héroïne, ne prend pas en disant que l'escalator c'est pour eux, c'est-à-dire pour les Français, qui ont tout fait pour avoir ce genre de confort mécanique, et lui n'a rien fait, il n'a pas payé des impôts, il s'est pas battu, il n'a pas travaillé ici, et il ne le mérite pas.
Merci Negar Javadi.
Merci à vous.
Scénariste, autrice de Des Orientales, votre premier roman publié chez Lana Levy, qui vient de recevoir le prix Albertine aux États-Unis.
Merci.
Mathias Golshani a réalisé et mis en onde ce nouveau numéro d'Orient Hebdo. Les musiques d'illustration sont iraniennes, très années 70, avec Kourosh Yarmaï et Faramaz Aslani.